J'ai besoin de ce capital. Merci, Monsieur Kervégan. Merci évidemment à Isabelle et à Céline pour avoir organisé ce colloque qui, non seulement par les présentations, mais également par les discussions, est très intéressant. Ce que je vais vous présenter, bon, pour une fois, je n'ai pas changé le titre de ma présentation, ce qui n'est pas dans mon habitude, en la force d'inertie des formes juridiques. Otto Kirchheimer et la critique du droit. Je précise qu'il s'agit d'un chapitre d'un ouvrage que j'essaie d'écrire sur Kirchheimer. Et si Olivier Joangean a réussi hier à nous faire l'exploit de faire deux conférences en une, moi j'aimerais faire trois conférences en une, mais comme je n'ai pas le brio et la maestria de M. Joangean, je vais me limiter à deux. Donc n'hésitez pas à m'arrêter si ça va un peu trop long.
On n'y manquera pas.
Non, d'accord. Donc j'aimerais dans les minutes qui vont suivre tenter, je dis bien tenter, de caractériser le travail critique qui anime la pensée et l'œuvre de Otto Kirchheimer. Et je dis tout de suite que ce n'est pas une entreprise facile parce que Kirchheimer représente une figure assez particulière au sein de la théorie juridique, tout genre confondu. Et l'image qui me vient spontanément à l'esprit, c'est l'image d'un électron libre qui est toujours en excès par rapport aux différents systèmes, aux différentes configurations dans lesquelles il est amené à intervenir. Juif allemand, trop jeune pour participer à la Première Guerre mondiale. Kirchheimer est surtout connu pour ses analyses incisives de l'ordre constitutionnel weimarien et de sa décomposition. Son essai « Weimar und Weisstein » est souvent présenté encore aujourd'hui dans l'historiographie, c'est assez frappant, comme étant l'exemple type du radicalisme de gauche qui rejette tout compromis, qui dénonce les promesses vides de l'état de droit bourgeois, etc. Militant du SPD, Kirchheimer était aussi une sorte de curiosité pour les autres juristes qu'il fréquentait, Franz Neumann, Ernst Frankel, mais aussi Otto Kahn Freud, où il y a des choses intéressantes à creuser de ce côté. Et ce qui a fait aussi couler beaucoup d'encre, c'est sa proximité intellectuelle, mais également personnelle pendant un certain temps avec Carl Schmitt, qui était son docteur Vater, et donc qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle a valu à Kirchheimer autant une méfiance durable de la part des adversaires de Schmitt, mais également des critiques et des attaques de l'hostilité de plusieurs schmittiens qui ont considéré Kirchheimer comme un traître, un profiteur, voire même un parasite. Schmitt utilise cette qualification, quelque part, pour désigner Kirchheimer. Et bon, je mentionne tout ça. Bon, je rappelle aussi le rapport que Kirchheimer a eu avec l'Institut für Soziale Forschung, la publication du premier livre en exil. C'est quand même très important. C'est le premier livre que l'École de Francfort publie en exil, Punishment and Social Structure. Donc, ça se voulait vraiment une carte de visite dans l'université américaine. Avec Marcos, avec Neumann, il joint les services secrets américains, l'OSS. Il devient professeur à Columbia, à New School et ensuite à Columbia, où il va participer de manière assez paradoxale au tournant behavioral de la science politique américaine en publiant des articles sur les partis politiques qui sont encore aujourd'hui cités dans les bibliographies des comprehensive exams en études électorales et politique comparée. Bon, tout ça est très connu, mais je tenais à faire ce rappel-là pour bien faire sentir la singularité de ce personnage et de ses prises de position, et je voudrais ajouter à ça quelque chose qui est très évident quand on regarde les Gesamtschriften de Kirchheimer, c'est l'incroyable productivité. Le premier volume des Gesamtschriften, qui a été publié l'année dernière, contient 500 pages, et il s'arrête en 1933, c'est-à-dire au moment où Kirchheimer a 28 ans. Que faisiez-vous à 28 ans? Mais au milieu de ce foisonnement intellectuel un peu délirant, ce que je voudrais montrer, c'est qu'il y a vraiment une unité de style dans la critique, dans la manière dont Kirchheimer aborde le droit et dans la manière dont Kirchheimer opère la critique du droit, pour reprendre le terme qui est celui de l'argumentaire du colloque. Tant en allemand qu'en anglais, la prose de Kirchheimer a des qualités particulières, pleine de paradoxes, d'ironie, de chiasme. Il aime beaucoup les formules en chiasme, mais il ne dédaigne pas non plus les formules anticlimatiques, les éléments un peu mélancoliques. Et si on en croit Buffon qui nous dit, le style c'est l'homme, Il faut chercher, je pense, dans le style de Kirchhaven, dans cet amalgame de tendances concurrentes, quelque chose qui nous conduirait, je dirais, au cœur ou au foyer de la perspective critique de Kirchhaven. Et c'est ce que je voudrais essayer de faire aujourd'hui, d'essayer de qualifier un peu qu'est-ce que c'est que la critique du droit chez Kirchhaven. Et pour faire ça, ce que je vais commencer à faire d'abord, mais très rapidement, c'est présenter un peu deux orientations prises au 20e siècle par la critique du droit. C'est évidemment une caractérisation très grossière. Je vais simplement me borner à dessiner des idéotypes qui vont permettre, dans leur tension, de rendre compte de la nature exacte de l'entreprise critique de Kirchhaven, ou en tout cas d'essayer de la préciser. Puis à partir de là, je voudrais montrer comment Kirchhaven se place au cœur de cette critique-là, et comment il place au cœur de cette critique-là la question des concepts et leur nature polémique. C'est un thème qu'on a abordé hier, notamment par Olivier. Et là, je vais prendre comme exemple, pour être plus précis, son enquête sur la notion d'expropriation, notamment son petit ouvrage « Die Grenzen der Enteignung », dont l'intérêt est, comme je voudrais le montrer, surtout méthodologique. C'est une méthode critique que Kirchhaven expose, surtout dans cet ouvrage-là. Et on verra donc comment, chez Kirchhaven, la critique est indissociable d'une forme d'un travail d'historicisation des notions et des catégories sur lesquelles repose la doctrine. Et par ce biais, le rapport de Kirchhaven à Schmitt, ou à une certaine méthode schmittienne, devient particulièrement frappant, au-delà du décisionnisme et au-delà des grandes déclarations, la méthodologie critique comme telle. Mais je veux aussi souligner les limites de ce rapprochement-là, en tenant compte de l'importance que Kirchhaven accorde à l'ambivalence des notions, l'ambivalence des concepts. Le fait que les concepts restent toujours glissants, inappropriables, in fine, et qu'en dépit des formulations un peu qui peuvent suggérer le contraire dans l'œuvre de Kirchhaven, je dirais que l'ambivalence n'est pas simplement pour lui un symptôme pathologique, c'est le symptôme d'une indécision ou de compromis dilatoire, mais renvoie au contraire à un élément constant, fondamental dans la vie du droit, c'est-à-dire la relation dynamique entre les institutions juridiques et leur substrat social. Et là, c'est ici Karl Renner davantage que Carl Schmitt qui, à mon sens, devient la source d'inspiration et la référence méthodologique. Voilà. Et ce faisant cela, ben, j'aimerais ça éclairer, mais je n'aurai pas le temps probablement aujourd'hui, mais l'étrange position qui est défendue par Kirchhaven dans les derniers mois de la République de Weimar, où il défend une espèce de légalisme un peu particulier. Et je voudrais montrer comment c'est une conséquence, en quelque sorte, de son parti pris méthodologique, à la fois Karl Schmitt et Karl Renner. Mais ça, c'est ma troisième conférence, donc je ne pourrais pas la faire aujourd'hui. Je vais commencer donc pour camper la discussion en identifiant de manière très schématique. Et là, je sais que je vais prêter le flanc à toutes sortes de critiques, de simplifications, mais je crois que c'est utile. Identifier de manière très schématique, mais je l'espère pas totalement inexact, les deux grandes orientations qui ont présidé à la pensée critique du droit depuis, j'allais dire, les grands débats doctrinaux de la fin du 19e siècle, ou donc la critique du droit, pour parler comme l'argumentaire du colloque. C'est les idéotypes, c'est-à-dire, Catherine va me endosser, hein, donc des tableaux de pensée obtenus par accentuation unilatérale de certains traits, de certains arguments que l'on trouve dans le corpus, dans un corpus assez large qui va, de l'école du droit libre jusqu'au CLS, en passant par la jurisprudence sociologique, le réalisme américain, la théorie pure ou le modernisme anglais. Mais je dirais que on peut, en fonction de l'objectif visé par la critique et surtout par la manière de procéder, par le type d'argumentation qui est mobilisé, on peut distinguer entre une critique interne qui se donne comme but, qui se donne un but thérapeutique, et une critique externe qui se comprend surtout comme une catalyse, c'est-à-dire l'accélération dans la sphère du droit d'un processus ou d'un mouvement dont le principe réside à l'extérieur de cette sphère. Grossièrement, je dirais qu'il s'agit, dans un premier cas, de corriger certaines tendances néfastes présentes au sein de la doctrine ou au sein de la pratique judiciaire, alors que dans un second cas, il s'agit de dévoiler les contradictions, les blocages qui rendent le droit constitutivement réactionnaire ou oppressif. Pour ce qui est de l'orientation thérapeutique, je dirais que je crois qu'un des exemples, l'exemple que j'ai choisi ici, Les exemples les plus frappants, c'est probablement le petit ouvrage, le petit pamphlet de Hermann Kantorowicz ou Gnaeus Flavius, si vous préférez, hein, Der Kampf für die Rechtswissenschaft, où dans son attaque très haute en couleur contre le formalisme, contre l'idéal du Recht automate. Je crois qu'on trouve un bel exemple de cette critique thérapeutique-là. Si on lit Der Kampf für die Rechtswissenschaft, on s'aperçoit que l'objectif de Kantorowicz, au fond, c'est le combat pour la science du droit. Ça vise d'abord à rendre aux juristes le sens de leur propre pratique, de ce que nous faisons. Kantorowicz dit il s'agit simplement d'exprimer ce qui est, de ce qui a toujours été pratiqué en fait de droit, mais qui a été en quelque sorte enterré, oublié, caché. Caché par quoi? Caché par deux choses. Caché par un modèle scientifique inadéquat, en gros hérité de la Begriffs Jurisprudence, hein, qui s'est imposé en génération antérieure et qui élève en forme de canon scientifique, hein, le formalisme, la complétude du droit, hein, et qui, ce faisant, et ça c'est très intéressant dans le texte de Kantorowicz, ce modèle-là impose une sorte de prétention monstrueuse, une prétention scientifique monstrueuse à la totalisation au droit que les autres sciences n'ont pas. Kantorowicz nous dit les autres sciences, la biologie, la philologie, il n'y a que la théologie qui entretient cette espèce de croyance totalisante, etc. Toutes les autres sciences, en réalité, ont appris à faire avec les hypothèses, les conjectures, etc., etc. Et donc, le danger de la science du droit, hérité de la Begriffs Jurisprudence, au fond, c'est de produire une science complètement mégalomaniaque, autoréférentielle, et qui fait impasse sur la nature expérimentale du droit, sur la nature proprement créatrice, hein, du droit, et d'où l'appel de Kantorowicz à ouvrir la science du droit à d'autres disciplines, à la sociologie, à l'économie, hein, à l'anthropologie, etc. Et incidemment, mais là, c'est dirigé vers Catherine, mais incidemment, c'est pour Kantorowicz, le modèle, c'est Max Weber. Et c'est ironique parce que Max Weber va être le premier à critiquer Kantorowicz lors du congrès le premier congrès des sociologues allemands en disant « c'est pas du tout, il faut pas faire comme lui ». Mais bon, ça, c'est une autre question. Donc, d'une part, on a cette idée que la science du droit, en quelque sorte, elle doit être réformée parce qu'elle pêche contre la nature propre de ce qu'est le droit. Elle nous cache ce qui est réellement, ce qui est toujours en œuvre à quelque part dans le droit. Mais aussi, cette science-là s'appuie de manière un peu symbiotique avec une théorie de la décision judiciaire qui est beaucoup trop simple, qui est beaucoup trop mécanique, hein, et qui est beaucoup trop pauvre, qui est incapable de rendre compte de la pratique judiciaire in concreto. Et c'est pourquoi il faut adopter un autre modèle de la décision judiciaire, un modèle qui mette en son centre la volonté. Il ne s'agit pas d'exalter la volonté comme une force obscure, même si certaines formules de Kantorowicz vont un peu dans ce sens-là, mais de reconnaître le rôle essentiel que joue la volonté, qu'on le veuille ou non, en quelque sorte, hein, dans la sélection des prémices, dans l'appréciation des faits, plutôt que d'être camouflé sous la forme du syllogisme. Le travail de sélection, d'appréciation doit être conduit de manière ouverte et consciente par les juges, d'où encore une fois le rôle, hein, que devra jouer la sociologie, l'économie, pour nourrir ce travail réflexif et plutôt que le laisser à la merci des préjugés de classe et des intérêts corporatifs. Quelque chose qui ressemble beaucoup finalement à ce que Oliver Wendell Holmes à la même époque, quand il dit the black letter man may be the man of the present, but the man of the future is the man of statistics and the master of economics. Donc il faut que les juges s'ouvrent à d'autres apports pour clarifier les prémices de leur propre travail. Donc ce que je veux montrer, c'est qu'il y a une orientation thérapeutique dans la critique du droit qui va souvent se fonder sur une alliance ou une symbiose entre une dialectique, si on veut, entre la critique d'une certaine orthodoxie doctrinale, donc la nature, la fonction de la doctrine, la nature de l'entreprise doctrinale, et une compréhension nouvelle, j'allais dire réaliste ou plus ouverte de la décision judiciaire. Un peu comme si le problème du droit, au fond, tenait à cette symbiose, hein, pathologique entre idéal formaliste de la science et modèle strictement déductif de la décision. Et c'est du coup ça que la critique du droit doit trancher. Bon, c'est schématique, mais c'est un premier modèle. L'autre voie, évidemment, que peut emprunter la critique du droit, c'est celle qui est associée au nom de Marx, hein, dont il faut ici fêter le bicentenaire, hein, et plus généralement, j'allais dire, la critique de l'idéologie. Et selon cette orientation, dont on trouve les grandes lignes, évidemment, dans l'idéologie allemande ou dans la contribution à la critique de l'économie politique, le droit moderne, c'est-à-dire le droit indistinctement bourgeois et civil, relève de l'idéologie dans la mesure où il repose sur une inversion du rapport entre concept et réalité. Bon, je ne rappelle pas la formule d'Althusser, mais il y a quelque chose de ça. Alors, les principes juridiques, les concepts, les fondements du droit civil, donc l'individu, le contrat, la propriété, etc., sont des déterminations unilatérales, abstraites, d'une totalité pratique, sociale, et ils acquièrent ces concepts, ces principes, ces fondements du droit, un statut idéologique dès lors qu'ils sont pris pour argent comptant, ce qu'ils sont nécessairement par les juristes, par des gens dont le travail consiste à justement les combiner et les manipuler afin de régler des relations entre des producteurs. Donc, il y a idéologie dans la mesure où les juristes méconnaissent la détermination pratique des concepts et des catégories du droit et ils sont forcés de méconnaître cette détermination-là, sans quoi ils ne seraient pas des juristes. On se rappelle la fameuse métaphore de Marx là, sur la rétine au début du Capital, où Marx nous dit la production d'une image, d'une chose à l'extérieur de l'œil par les nerfs optiques obéit à une nécessité physiologique. On ne peut pas suspendre cette représentation pour simplement ressentir l'effet d'excitation du nerf optique dans sa matérialité. Donc, de la même manière, il y a une méconnaissance qui est structurelle, qui est constitutive de l'objet, que ce soit l'image mentale ou que ce soit le droit, cette méconnaissance ne peut être dépassée, nous dit Marx, nous dit la critique de l'idéologie, que par l'action pratique, l'action révolutionnaire, etc., qui va abolir la séparation entre les fondements, les principes du droit, les institutions de droit et les rapports concrets de production. Donc, bref, faire disparaître le droit comme instance séparée. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce dernier modèle, ce que j'appelle catalyse, c'est qu'il s'agit d'accélérer finalement un mouvement qui est extérieur à la sphère du droit. Et on ne peut pas parler de thérapeutique ici, parce que je dirais qu'il s'agit plutôt de se débarrasser du patient, en fait, en hâtant son décès, en un sens, que d'essayer de le sauver. Bon, on pourra faire plein d'objections sur cette séparation. Moi, je pense qu'elle est fructueuse. En même temps, ce n'est pas une bifurcation fondamentale, c'est plutôt des idéotypes, des stratégies argumentatives qui sont utilisées par la critique du droit. Et mon but, évidemment, je pense que dans la plupart des classiques de la critique du droit, ça va assez bien. On réussit assez bien à les classer. Je prends, mettons, Jérôme Franck, hein, Law and the Modern Mind. C'est assez clair que ça va dans une perspective thérapeutique. C'est assez clair qu'il y a une critique à la fois de la legal scholarship, du formalisme, etc., et de la décision judiciaire, et que ça fonctionne ensemble. Par contre, si je prends les CLS, c'est assez clair que ça va dans une perspective de critique de l'idéologie et d'accélération, de montrer comment il y a un mécanisme oppressif ou de méconnaissance qui est constitutif à l'objet droit. Et que la seule manière, au fond, c'est de faire sauter cette séparation entre l'objet droit et ses déterminations. Et là, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que le code Kirchhammer me semble particulièrement intéressant dans cette configuration-là, très particulièrement délicat parce que, et c'est pour ça que je vais en faire un examen un peu plus approfondi, il y a quelque chose chez Kirchhammer qui tient du collectionneur ou j'aime bien l'expression anglaise, le hoarder, celui qui accumule toutes sortes de choses, toutes sortes d'objets exotiques extraits de leur contexte pour les réutiliser. Il y a énormément de citations, de références de Kirchhammer qui fonctionnent de cette manière-là, comme une réappropriation, recyclage. En ce sens-là, on pourrait dire que Kirchhammer oscille entre ces deux voies, entre engagement et scepticisme, pour reprendre le titre d'un livre de Frank Schaal, Zwischen Engagement und Skepsis. Pourtant, et c'est ça que j'aimerais montrer, ce serait la thèse de mon ouvrage, mais bon, ce que j'aimerais montrer, c'est que le bricolage théorique auquel Kirchhammer se livre ici est guidé par au moins deux ou trois options méthodologiques fondamentales qui assurent une sorte de stabilité à sa critique. Et si dans le cas de Franz Neumann, par exemple, on peut vraiment parler, je crois, d'une opposition non résolue, un peu tragique entre réforme et résignation, entre thérapeutique et critique de l'idéologie, je pense que chez Kirchhammer, on a une espèce d'emboîtement un peu complexe Et j'aimerais essayer d'explorer cet emboîtement-là et de vous le montrer. Et pour le faire, je vais... en fait, le premier élément, la première option théorique qui me semble constituer de la critique du droit chez Kirchhammer, c'est son indifférence par rapport à l'enquête sociologique. Son indifférence par rapport à la pratique judiciaire comme telle. Contrairement aux réalistes, contrairement à Hermann Kantorowicz, etc., contrairement à l'école du droit libre, il ne s'intéresse pas à la pratique judiciaire. Il n'y a pas de théorie de la décision judiciaire. Il s'intéresse en fait assez peu, même au contentieux, et même en limite aux tendances de la jurisprudence en elle-même. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Contrairement justement à quelqu'un comme Neumann ou Frankel, ou même Otto Kahn-Freud, qui va être juge après en Angleterre, et il s'intéresse peu au développement jurisprudentiel comme tel, mais il s'intéresse au discours, il s'intéresse à la doctrine, il s'intéresse à la façon dont les juristes, et de manière un peu moins, dans une moindre mesure, ce que les juges disent du droit. Son objet, c'est la doctrine saisie dans sa structure conceptuelle, dans sa force performative. Et c'est là, à mon avis, que le rapport à Schmitt est indénouable pour Kirchhammer. Kirchhammer s'inscrit dans la continuité du projet schmittien d'une sociologie des concepts juridiques. C'était le nom, on se souvient, c'était le nom que portait la théologie politique à l'origine. Sociologie juridique du concept de souveraineté. Et je rappelle rapidement, bon, Jean n'est pas là, donc il ne va pas hurler, mais je rappelle rapidement le projet schmittien qui a l'ambition de dépasser le Weber, en fait, qui a l'ambition de dépasser le psychologisme de Weber, une explication qui compare à Sainte-Beuve, la critique littéraire. Et plutôt que s'intéresser à la façon dont les formes de pensée juridiques ou la façon dont les arguments juridiques se différencient en fonction des couches porteuses, comme le fait Weber, notamment au chapitre 4 de la Reiche Sociologie, la sociologie schmittienne, sociologie entre guillemets, une compréhension très particulière de ce qu'est la sociologie, cherche à atteindre, comme le dit Schmitt, la structure ultime, radicalement systématique des notions doctrinales fondamentales, en les dégageant justement de toute cette gange, de tout ce qui touche, nous dit Schmitt, aux intérêts pratiques de la vie du droit. Il s'agit de dégager en quelque sorte la structure fondamentale. Et donc, on a comme postulat de cette sociologie l'idée que les concepts, ou ce que Schmitt désigne par le substantif de Begrifflichkeit, la conceptualité, forme une strate, forme une réalité sui generis, qu'il faut analyser sans chercher à la rabattre sur des quelconques déterminations. Je cite ici Schmitt quand il dit « La sociologie des concepts juridiques se donne pour tâche de découvrir la structure ultime, radicalement systématique et très ambitieux, et de comparer cette structure conceptuelle avec l'élaboration conceptuelle de la structure sociale d'une époque donnée. Il ne s'agit pas ici de savoir si l'idéalité de la conceptualité radicale est le reflet d'une réalité sociale ou si la réalité sociale peut être envisagée comme le produit d'une certaine manière de penser et donc d'agir. On trouve plutôt ici deux unités spirituelles, quoique substantielles. » Et c'est en ce sens que pour Schmitt, enfin, cette sociologie-là, et je pense que Kirchhammer, jusqu'à un certain point, il va dans cette direction, les concepts agissent, en quelque sorte, sans médiation sociale. Ils se déploient à l'horizon de signification d'une époque et délimite pour les juristes les limites du pensable et du possible. Bon, cette approche schmittienne est très ambitieuse, est un peu statique, elle va être, et là c'est fondamental pour mon propos, elle va être complétée par une série de remarques que Schmitt va faire en marge du texte de 1929 sur les neutralisations, l'époque des dépolitisations et des neutralisations, où Schmitt nous dit « tout concept important et existentiel, c'est-à-dire pluraliste et polémique ». Ouvert à l'afflux de significations opposées, il se présente à la fois comme un enjeu pour des forces en conflit et une arme à leur disposition, ou pour parler comme Kozlek qui va systématiser cette idée de Schmitt, en tout cas, que tout concept est simultanément indice de rapport politique et vecteur de transformation sociale. Donc à la fois enjeu et arme, indice et vecteur. Cette double nature du concept comme enjeu et comme arme est donc fondamental pour qui veut s'en tenir au niveau de ce que font les concepts et non simplement y voir des échos ou des expressions plus ou moins fidèles d'une base sociale. Elle permet en quelque sorte cette double nature du concept de boucler l'analyse conceptuelle sur elle-même tout en y trouvant une voie d'accès vers le politique. Comme on sait, chez Schmitt, chez les héritiers de Schmitt, le travail de généalogie conceptuelle devient l'épine dorsale de l'analyse juridique. Et je pense que pour Kirchhammer, c'est la même chose qui se passe. Et là, vous allez me dire, bon, une minute, il faudrait voir. On va regarder. Je prendrais le texte, en fait, ce que je propose de faire, c'est de prendre le texte de 1930, Die Grenzen der Enteignung, l'expropriation. C'est un texte qui est tombé un peu dans l'oubli. C'est un texte qui a été publié en 1930 chez De Gruyter. Et là, j'avoue que c'est la publication des œuvres complètes par Borstein qui m'a permis de redécouvrir ce texte. Ce texte propose une analyse de la signification de l'article 153 de la Constitution de Weimar, l'article sur la garantie de la propriété privée, et de la manière dont cet article-là a été interprété par les tribunaux fédéraux dans une série de cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Pour l'essentiel, il s'agit de cas relatifs à la planification urbaine et au règlement de zonage, où les juges sont intervenus pour exiger des autorités municipales ou du Land de Prusse le versement de compensation pour dévaluation et dégradation de propriété privée, suite à des travaux publics, suite à des projets publics. Ça peut paraître anecdotique, ce genre de cas-là, mais c'est le genre de cas qui, en même temps, au même moment, vont intéresser les juristes anglais proches du Labour, comme Ivor Jennings ou William Robson, sentant bien qu'il y a quelque chose dans le gouvernement municipal qui est fondamental pour le développement des politiques locales et qui doit, y a dans la réaction conservatrice des juges, quelque chose de fondamental. Donc, je mentionne ça au passage. Mais donc, pour Kirchhammer, cette jurisprudence du tribunal du Reich est fondamentalement réactionnaire parce qu'elle donne, et je le cite, l'extension la plus large possible au concept d'expropriation en portant compensation, de manière à y inclure une foule de processus apparentés et d'interventions et de relations de droit privé de toutes sortes. Et là, je vais citer un passage du texte de Kirchhammer parce que ce texte n'a jamais été traduit, il n'a probablement jamais été lu. Ça m'étonnerait qu'il ait vraiment été lu. Souvent, et je pense que c'est important pour comprendre l'argument. La logique intrinsèque d'une telle extension du concept d'expropriation aboutit à des conséquences monstrueuses. L'activité de l'État se dissout en un faisceau de relations de droit privé, où l'on donne à chaque intérêt le moyen de faire valoir ses réclamations en fonction du principe de l'accumulation bourgeoise. En réalité, cette extension du concept d'expropriation conduit à garantir à la propriété privée le statu quo face à l'État, qui ne se retrouve évidemment pas, cette extension, qui ne se retrouve évidemment pas dans la Constitution de Weimar. Et un peu plus loin, il termine en disant « Nous trouvons donc en Allemagne dans une situation où tous les droits acquis jouissent d'une manière indiscriminée et sans aucun rapport avec les nécessités et les besoins sociaux, d'une protection inviolable valant contre le législateur. Ce développement n'a pas été voulu et encore moins encouragé par la Constitution de Weimar. » En déclarant sacro-saint les droits acquis, l'État laisse le champ libre aux puissances privées. Lorsque celles-ci parviennent à contester avec succès à l'État son droit de représenter l'intérêt général, la frontière entre le droit acquis et la pure facticité s'efface. Lorsque sous les droits acquis se cache toujours le maintien du statu quo, alors le statu quo devient lui-même un droit acquis. Belle formule en chiasme, assez typique de la prose de Kirchhammer. Donc, aux yeux de Kirchhammer, la jurisprudence du tribunal du Reich constitue une perversion de l'article 153 de la Constitution de Weimar. Donc, selon lui, la Constitution de Weimar de 1919, à l'instar de la plupart des constitutions d'après-guerre, a opté pour une vision positive, en tout cas une vision de la vie économique qui n'est pas simplement l'affaire de droits négatifs, mais qui invite à des formes de planification et d'expérimentation sociale. Et c'est pourquoi l'article 153 n'envisage l'expropriation avec compensation que dans les cas d'atteinte accidentelle et de dégâts latéraux à la propriété privée, mais pas dans le cas d'une politique législative délibérée. Telle était, nous dit Kirchhammer, la volonté de la Constitution et il faut comprendre et respecter cette volonté. Un propos qui sonne vraiment étrange dans la bouche d'un auteur qui, deux mois auparavant, a publié « Weimar und was dann ». Et d'ailleurs, ça fait partie un peu de l'ambiguïté de Kirchhammer face à ça. Ce qui est intéressant dans cette critique, dans ce livre de Die Grenzen der Enteignung, c'est que Kirchhammer, plutôt que s'en prendre à, par exemple, aux préjugés de classe ou aux techniques de décision judiciaire que les juges ont employées, à la méthode d'argumentation, donc aux préjugés de classe, à la classe in justis, comme le faisaient à la même époque plusieurs juristes socialistes, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une généalogie conceptuelle du concept d'expropriation. Il va montrer comment, au fond, cette jurisprudence-là n'est que le terme d'un vaste mouvement hein, un vaste mouvement doctrinal qui, avant même la Constitution de Weimar, travaillait à infléchir la notion d'expropriation, et que c'est en raison de ce glissement conceptuel qui a rendu caduque et inintelligible l'ancien concept d'expropriation, le concept d'expropriation hérité des luttes libérales du 19e siècle, que le tribunal du Reich a pu se croire tout à fait autorisé à censurer les pouvoirs publics. Et donc, il faut, nous dit Cachaman, ne pas simplement s'attaquer aux symptômes, à la décision judiciaire comme telle, mais il faut essayer, la critique du droit doit retracer le glissement de sens des concepts et déceler un peu la politique des concepts qui se joue derrière ce type de jugement, qui s'opère en fait dans les tréfonds, en quelque sorte, du droit. Et quelle est cette notion d'expropriation classique dont ces jugements-là s'écartent, dont les jugements sont comme des symptômes du fait qu'on s'écarte progressivement, qu'on s'est écarté progressivement de cette notion-là, ben, elle vient essentiellement, cette notion classique d'expropriation, du traitement des droits acquis au début du 19e siècle, fin du 18e, début du 19e siècle, lors du passage de la Révolution française, lors du passage d'un régime fondé sur les droits, un régime féodal à un régime fondé sur l'exclusivité, l'aliénabilité, et la circulation de la propriété individuelle. Comment on fait pour assurer les droits, le caractère sacré de la propriété individuelle sans que cette protection ne serve du même coup à protéger les droits acquis, hein, les droits féodaux, hein, les droits des corporations, qui sont contraires à la logique de la société de marché, à la société libérale. Et la solution classique, aux yeux de Kirchheimer, c'est toujours la même chose, c'est la France. Et pour Kirchheimer, la France est toujours le modèle classique, hein, parce que c'est le modèle où la bourgeoisie est triomphante, et ça consiste finalement à poser le droit à l'expropriation, non pas comme l'antithèse du droit de propriété, mais comme le complément, le corollaire nécessaire du droit de propriété. Le dispositif de l'expropriation est la garantie de droit public de la propriété bourgeoise, individuelle, contre l'arbitraire de l'administration, certes, mais surtout contre les vestiges de l'ordre féodal. Comment? Ben, par un régime dualiste qui sépare entre l'expropriation individuelle et la dissolution de droit. Hein? L'expropriation n'est possible que dans les cas de biens immobiliers, individuels, concrets, pour des finalités techniques, selon une procédure réglée qui fait intervenir le juge ordinaire. À qui il revient de contrôler, hein, l'adéquation et la validité de la justesse des compensations, de valider la justesse des compensations. Ce qui est intéressant de ce dispositif-là, c'est ce qu'il laisse à l'extérieur, c'est-à-dire les droits acquis, hein, les droits féodaux, les droits des corporations, etc. C'est-à-dire des droits qui ne sont jamais comme tels protégés en masse contre une dissolution. Une autre façon de dire que l'institution juridique de l'expropriation ne s'applique qu'à telle ou telle propriété individuelle concrète, mais qu'elle ne protège jamais des catégories entières de droits de propriété. Elle protège les propriétés, mais pas les catégories de droits de propriété. Et cette nature dualiste de l'expropriation qui, selon Kirchheimer, apparaît en France dans les suites de la Révolution française, suppose qu'on a une configuration politique dans laquelle dominent les partis bourgeois et où le système capitaliste est relativement... il est victorieux, donc, on est dans une phase de consolidation. C'est pourquoi c'est compliqué, l'histoire de cette diffusion, de la diffusion du concept d'expropriation en Allemagne. Mais, Kirchheimer va montrer que tout ça est acquis, en quelque sorte, à partir de Otto Meyer, à partir du grand traité de droit administratif d'Otto Meyer en 1886, où, clairement, Otto Meyer fixe le sens de l'expropriation. Il donne de la notion d'expropriation son sens, sa situation durable et authentique. L'acte d'expropriation est défini de manière purement négative par son caractère incident et fortuit. Ça souffait l'ischkeit. L'acte d'expropriation permet de retirer ou de transférer la propriété, et là je traduis de manière imaginative, de biens matériels et corporels, mais jamais elle ne la retire ou ne la transfère de manière délibérée ou planifiée. Ce n'est que dans le cas de cette pure zufälligkeit que réside la justification de l'exigence de compensation. Elle indique le caractère diffus et occasionnel de l'opération d'expropriation. Et donc, ce que nous dit Kirchheimer, au fond, c'est que ce concept dualiste d'expropriation-là, c'est de ça dont hérite la Constitution de Weimar en 1919, mais que placé à cause de cette transformation de la configuration politique et un nouveau rapport un nouveau contexte institutionnel, une nouvelle configuration des forces politiques, le sens de cette notion-là va s'infléchir dans deux directions antagonistes, dans deux directions opposées. Là, on a la politique des concepts. Hein? D'une part, la Constitution de Weimar établit l'omnipotence de la loi parlementaire et lie la propriété privée à des objectifs sociaux, hein, l'article 151, l'article 156, etc. Et donc, elle ouvre la possibilité à une foule de redistribution de droits de propriété. Selon Kirchhammer et selon Neumann et selon Frankel, c'est la définition même, c'est un autre concept de propriété qui apparaît. Ce n'est pas le même concept, hein, c'est un concept social de propriété qui apparaît en parallèle, en quelque sorte, avec le concept privé, le concept classique. Hein, et donc, Kirchhammer, à la suite de Neumann, va souligner cette nouveauté, cette nouvelle conception sociale de la propriété, hein, qui est en parallèle, en quelque sorte, et dont l'importance va s'accroître si, comme le veut Heller et consorts, hein, l'état de droit libéral doit devenir un état de droit social. La garantie d'expropriation continue de valoir pleinement s'agissant de la propriété privée au sens classique du terme. Mais dès lors que la distribution entre propriété privée classique et propriété sociale reste in fine dans les mains du législateur, la garantie d'expropriation ne concerne qu'une partie congrue, hein, des interventions de la puissance publique. Je vois que le président regarde 5 minutes.
Oh, maximum.
Maximum. Attendez, j'ai besoin de 8. Et de l'autre côté, on a un autre mouvement qui va extraire de ce cadre dualiste la notion d'expropriation pour glisser d'une notion d'expropriation définie de manière notionnelle en fonction de simplement la nature de l'opération d'expropriation vers une conception fonctionnelle qui va simplement s'intéresser aux effets d'expropriation. Et en ce sens-là, c'est comme ça qu'on va voir comment un droit à l'indemnisation va commencer à valoir contre le législateur. Donc, c'est une manière de montrer comment, Kirchhammer va intervenir dans un débat qui est le débat sur le contrôle de constitutionnalité, en fait, des lois ordinaires, ou la revendication par les juges du contrôle de constitutionnalité, hein, où les juges se permettent de censurer le législateur ordinaire au nom du droit de propriété. Bon, j'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails-là, mais ce que je veux montrer, au fond, c'est que ce texte donne un exemple intéressant de la manière dont la critique du droit opère chez Kirchhammer, parce que plutôt que de s'opposer à la doctrine dominante au nom d'une contre-doctrine qui serait nourrie d'une sociologie ou d'une éthique ou d'une étude des relations de travail, la critique prend la forme d'un exercice de généalogie conceptuelle qui assez semblable à celui que Schmitt auquel Schmitt procède, sur la base d'une périodisation d'un jeu de postulats assez semblable à celui de Schmitt, mais avec une divergence importante, et que cette divergence importante, on la voit lorsqu'il vient le temps, ce sera un peu ma conclusion, là, lorsqu'il vient le temps de se demander à quoi tient la nature polémique des concepts, à quoi tient leur pluralisme. Bon, pour Schmitt, comme on sait, cette nature pluraliste ou polémique des concepts, il le dit, elle est existentielle. J'entrerai pas dans les subtilités de l'anthropologie politique de Schmitt, à supposer qu'il y en ait tant que ça, mais on devine que ce caractère polémique renvoie à une donnée fondamentale de la nature humaine, donc la propension à l'intensification des conflits, etc., etc. Bon, c'est une thèse trop connue. Or, Kirchhammer ne sent pas le besoin d'adopter ce type de thèse-là. On pourra me dire que c'est parce qu'il a une théorie de la lutte des classes comme substitut ou fonctionnel. Je dis, oui, peut-être, mais en réalité, c'est trop superficiel comme caractérisation. Ça ne rend pas compte de la manière dont Kirchhammer cherche à maintenir la spécificité des controverses doctrinales dans leur dimension stratégique, dans leurs effets pratiques. Et c'est d'ailleurs, à mon sens, tout ce qui fait l'intérêt de la critique du droit chez Kirchhammer. Le fait que même instrumentalisé, même polémiquement chargé, instrumentalisé par les forces en présence, les concepts demeurent glissants. Polyphoniques, leur signification et leur rôle sont la plupart du temps ambivalents, susceptibles d'être renversés, jamais parfaitement fixés, échappant aux acteurs. Et je pense que pour rendre compte de cette caractère glissant, polysémique des concepts, il faut se détourner de Schmitt, qui a une caractérisation beaucoup plus massive et unilatérale de la fonction des concepts, et se tourner vers Karl Renner, dont j'ai pas le temps de parler, mais en conclusion, hein, Renner va vraiment insister sur l'écart entre les institutions juridiques, les principes, les concepts, les règles et leur substrat social, en montrant comment les concepts, les règles, les institutions juridiques n'évoluent pas en quelque sorte, hein, mais comment c'est les rapports, le substrat social qui évolue et du coup qui fait évoluer la fonction des Recht Institute, des institutions juridiques. Et qu'en ce sens-là, les concepts, et là on revient à ce que justement Andreas parlait, comment un concept peut, sans changer, pas un mot, le concept classique d'expropriation, etc., reste exactement le même, mais placé dans une configuration de rapport de production, de structure sociale ou de force politique, sa fonction peut changer, hein, sans que les mots changent. Et bon, je n'ai pas le temps de continuer là-dessus, mais je pense que ça explique beaucoup la position que Kirchhammer adopte à la fin de la République de Weimar, son espèce d'étrange légalisme face à Schmitt, face à d'autres, notamment sa critique de tous les projets de réforme de la Constitution de Weimar, mais aussi sa polémique avec Ernst Frankel à la fin de la République de Weimar, contre les projets de réforme constitutionnelle d'Ernst Frankel. Ernst Frankel dit, bon, il faut qu'on s'organise pour que la Constitution fonctionne, il faut donner un droit de veto constructif, etc., etc., pour que la Constitution fonctionne, il s'agit simplement de régulariser quelque chose qui est déjà là. Et Kirchhammer dit, non, il n'y a aucun intérêt à une Constitution qui fonctionne. Parfois, une institution qui est en décalage par rapport au rapport de force est quelque chose de positif. Il y a quelque chose de, c'est pas pathologique. C'est parfois la seule possibilité de la démocratie ou de la lutte pour le maintien de la République, à condition évidemment de comprendre cette lutte pour le maintien des institutions, non pas comme une forme simplement d'adéquation, mais comme une lutte justement, donc comme un combat. Donc, je terminerai sur ça. Merci pour votre générosité.